Voilà, alors merci de vaincre la nuit pour venir jusqu'ici et prolonger notre méditation sur le bonheur, la joie, le plaisir dans les textes bibliques, dans cette grande épopée de l'humanité, cette grande épopée de l'esprit qu'est la Bible, hein, cette bibliothèque qui s'étend sur plus de 1 000 ans, 1 000 ans de, sinon de rédaction, en tout cas d'inspiration. Le mot bonheur en lui-même est porteur d'ambiguïté. Bonheur, ça veut dire bonne chance. Vous savez, on dit avoir l'heure, je n'ai pas l'heure de lui plaire, etc. C'est un peu soutenu comme formulation, mais l'heure, HEUR, c'est la chance. Donc on voit bien que le bonheur, le malheur est un peu lié à la chance. C'est une vision un peu païenne, comme s'il y avait un destin obscur qui trame pour chacun de nous quelque chose. Or, nous l'avons déjà un petit peu entrevu avec la Genèse, avec le fruit interdit, la tentation d'un bonheur fondé sur la maîtrise absolue du destin, sur la toute-puissance, sur la convoitise. On l'a vu, le bonheur est aussi un don qu'il s'agit d'accueillir, un don gratuit qui nous est fait et qu'il faut discerner dans le quotidien de nos vies. Donc, ça n'est pas seulement ce que l'étymologie suggère, c'est pas seulement la bonne chance, c'est pas seulement la bonne fortune. Ça, c'est une vision peut-être un peu païenne. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur d'autres textes du Premier Testament, issus de la tradition sapientielle, c'est-à-dire la tradition de sagesse, et la tradition prophétique, avec le Cantique des Cantiques et le prophète Isaïe. Le deuxième prophète Isaïe, on en dira peut-être quelques mots parce que le livre de la consolation que vous avez sous les yeux, dont vous avez des extraits sous les yeux, n'est pas d'Isaïe lui-même. Il est d'un successeur qui utilise le même style. Et ce sont des textes sur la joie, Gaudium, la joie. Je vous annonce une grande joie, ce sera l'annonce des anges, vous savez, à Bethléem. La joie, c'est la jouissance de l'âme, d'une certaine manière. Une jouissance spirituelle, mais il s'agit bien du même mot. La joie vient du verbe jouir. Il y a donc une exultation. On en fait souvent quelque chose de très immédiatement spirituel, mais dans la joie, il y a quelque chose qui exulte. Alors, est-ce que cette joie spirituelle est toujours sensible? Donc, une jouissance de l'âme qui établit l'âme dans une paix, dans une tranquillité, ce que les sagesses de l'Antiquité ont recherché aussi, cette espèce d'équanimité, c'est-à-dire de sérénité qui donne la vraie joie, la vraie exultation de nos puissances intérieures pour qu'elles s'établissent dans la paix. Voilà. Alors, est-ce que tout cela est sensible, doit être sensible? Une certaine tradition occidentale a souvent dit que la joie spirituelle n'était pas sensible, mais à force de le dire, on en a fait une abstraction un peu desséchante. Voilà. Alors, tous nos textes nous conduisent justement à reconnaître que la joie biblique, la joie de l'homme croyant, la joie du fidèle, la joie du chrétien, est une joie complexe qui est sur une ligne de crête entre d'autres formes de jouissance ou au contraire de désespérance. Voilà. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à Marc pour cette deuxième séance d'une année sous le signe de la joie.
Alors, merci Jérôme. Et puis, donc, c'est une joie, oui, effectivement, de se retrouver autour de ces textes. Alors, peut-être le Cantique des Cantiques est un des livres les plus curieux. D'ailleurs, il a bien failli, son statut a été très discuté, il a bien failli ne pas se retrouver dans la Bible, car c'est un texte assez cru, on le voit dès le début. Bon, il y a traduit qu'il m'embrasse à pleine bouche. C'est vrai que c'est un texte qui est assez cru, qui est assez sensuel. Alors, je me souviens, dans le protestantisme, on avait, enfin, il y a peut-être 50 ans, où il y avait une Bible des familles, en fait. Et donc, ils expurgent tout ce qui est un peu gênant. Dans le Cantique des Cantiques, pouf, ils ont carrément supprimé le livre, là, directement, parce que c'est un peu moins de 18 ans, en fait. Mais c'est intéressant, parce qu'en fait, Ce livre, il présente l'amour d'un homme et d'une femme, mais un amour, effectivement, un amour qui est une recherche, qui est un élan vers l'autre, qui est un appel à l'autre, et puis aussi un amour qui est charnel, c'est-à-dire qui se rencontre dans le lit, en fait, et on va le voir dans ce texte. Alors, ça a pu choquer, mais en même temps, c'est évidemment, si vous voulez, au fil du texte, aussi, c'est à double sens, c'est aussi une métaphore de l'amour de Dieu pour sa fiancée, qu'est l'humanité, en fait, et l'amour de l'humanité pour son Dieu. Alors, ça présente un type d'alliance, en fait. Vous savez que dans la Bible, il y a pas mal de types d'alliances, c'est-à-dire d'associations entre l'homme et Dieu. Il peut y avoir une image, par exemple, comme un roi avec ses sujets. Un roi qui peut, voilà, qui a le droit de vie et de mort sur ses sujets, qui donne les ordres, qui, voilà. Il peut y avoir comme une alliance, un traité de paix, en disant, bon, chacun fait sa partie, comme un traité de paix entre deux égaux, entre deux rois, finalement, ou alors un grand roi et un petit roi, mais quand même entre deux personnes de même niveau, ça peut être un type d'alliance dans la Bible. Et puis il y a un type d'alliance qui est celui de la conjugalité, en fait. Donc d'un époux et d'une fiancée, d'une vierge, ou d'une vierge ou d'une fille qui a pu se prostituer, qui a pu être infidèle. Donc c'est toute la question qui est interrogée de cette alliance sur l'image de la conjugalité. Alors ça se retrouve dans le prophète Osée, par exemple, qui n'est pas seulement Osée par le nom, qui peut être Osée aussi par cette image. Ce jeu de mots marche qu'en français, en fait, je crois. Mais sinon, ça peut se retrouver chez Ézéchiel et ça se trouve dans l'Évangile. Vous savez qu'il y a les paraboles des 10 vierges. Bon, Jésus dit souvent, il parle de lui comme l'époux. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé comme des vierges, à un seul époux. Donc, oui, c'est une métaphore qu'on retrouve en fait dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, dans la bouche même de Jésus. Alors, à mon avis, cette métaphore, elle dit déjà deux choses. Elle dit, à mon avis, que la joie du couple est suffisamment digne, belle, sainte, pure, pour évoquer, servir d'image à l'amour de Dieu pour l'homme et à l'amour de l'homme pour Dieu, donc de la grâce et de la foi. Ça dit déjà quelque chose de grand, à mon avis, sur ce que tu disais, Jérôme, c'est que bon, la joie biblique n'est pas tant désincarnée que ça, puisque pas tant non sensuelle que ça, puisque effectivement, quand cette image même dit quelque chose de la joie du couple, et pas simplement l'amour l'amour platonique. La conjugalité est bien digne de servir de cette joie-là, est bien digne de servir d'image à la joie qu'a le fidèle dans son alliance avec Dieu. Et ça dit déjà beaucoup, en fait. On croit que la Bible serait, élèverait, l'homme à la pure, au rang de pur esprit, mais pas du tout, si vous voulez, pas du tout. Les bénédictions aussi charnelles font partie de la joie que Dieu donne, et donc, à mon avis, il ne faut pas cracher du tout dessus. La question, après, c'est une question de hiérarchie, bien sûr. Celui qui vit pour son ventre ou celui qui vit avec pour seul objectif de satisfaire son sexe, on est bien d'accord que c'est une vie qui est recroquevillée sur elle-même, si vous voulez. Comme ce sont quand même des moteurs puissants, il peut y avoir des vies complètement déréglées, des assassines, criminelles, menées par cet objectif. Mais ça dit quelque chose aussi de la beauté de ça et donc du bon usage qui peut en être fait. Alors ici, il n'est pas tellement même question de fécondité, en fait. Parce qu'on peut se retrouver ça dans la Bible, l'idée que dans cette alliance entre Dieu et l'homme, la joie, c'est la joie de la fécondité. C'est vrai aussi, à mon avis, et puisqu'on va parler donc à Noël de Marie et de cette fécondité extraordinaire, ça aussi c'est une image, à mon avis, ou un signe de notre fécondité que nous avons par la parole de Dieu, par l'Esprit. Mais là, il n'est même pas vraiment question de fécondité, c'est là que c'est assez unique en fait, et que là aussi il y a sujet à controverse, parce que c'est la beauté du couple, uniquement pour le couple en fait, vous voyez, et quelque part avec Dieu, il y a ça, il y a un côté de joie d'être avec Dieu, de le chercher, de l'appeler, de se sentir appelé par Dieu, cherché, aimé par Dieu. Et le fait même de cette relation avec Dieu, indépendamment de la fécondité extraordinaire qu'on peut recevoir par la bénédiction de Dieu, par sa présence, par son amour dans notre existence, et puis peut-être dans ce que ça peut produire comme fruit dans notre vie. Il y a la joie de la rencontre avec Dieu, de la relation, de la recherche avec Dieu. Et ça, je trouve que c'est quand même, ça, chapeau, j'allais dire, parce que c'est pas si évident dans le contexte de la Bible, et c'est assez controversé, c'est assez subversif. Alors ce cantique des cantiques dont je vous disais, il a été son statut, sa place même dans la Bible, c'est-à-dire la Bible, c'est pas, j'allais dire, c'est pas tombé du ciel, mais oui, en fait, c'est pas fait sans Dieu, mais en même temps, c'est une compilation, c'est des livres qui ont été choisis parmi tant d'autres, si vous voulez. Donc comment est-ce que ça a été sélectionné? Ben, c'est à la synagogue, c'est à l'église, ils se sont... Il y a un consensus qui s'est développé sur la plupart des textes bibliques. Un certain nombre de textes, les théologiens, les spécialistes, les différentes synagogues, les églises ont dit « Oui, bon, celui-là, bof, on s'en sert pas trop. Tiens, il y a celui-là qui nous intéresse, est-ce qu'on pourrait pas le mettre ?» Ça s'est fait comme ça, si vous voulez, hein, un peu au consensus. Comme quand on fait une compilation, par exemple, des meilleurs titres des Beatles, forcément, on va mettre « Let it be » ou je sais pas quoi. Mais qui a dit qu'il fallait mettre Let It Be dans une compilation des Beatles? C'est l'usage, si vous voulez. Tout le monde est d'accord de dire que c'est un chant qui peut-être fonctionne assez bien. Et ça s'est trouvé comme ça. Ben, le Cantique des Cantiques, c'était limite. Mais quand même, les Juifs l'appellent le livre Saint des Saints. Et ils le lisent pour Pâques, en fait. Pour la fête de Pâques, qui est la grande fête, comme célébrant justement le salut de Dieu. C'est-à-dire... cette présence de Dieu auprès de nous, l'amour de Dieu, la foi de l'homme, et ils en font un livre, alors ça s'appelle le Cantique des Cantiques, ils ont mis le plus beau chant de Salomon, ça s'appelle, le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, le livre Saint des Saints, qui parle de cet amour de Dieu pour l'homme, et de l'homme pour son Dieu. Alors c'est difficile des fois de savoir quand est-ce que c'est la fiancée qui parle, quand est-ce que c'est l'époux qui parle? Alors, des fois, c'est clair. Là, on a un peu les deux. Hein. Il y a, là, je crois que ça commence par la fiancée. Le roi me fait entrer dans sa chambre, c'est la fiancée, en fait. C'est donc l'humanité qui parle. Ensuite, le début, par exemple. C'est la fiancée aussi. Mais ensuite, on passe... c'est Dieu qui parle, en fait. C'est l'époux qui parle de sa fiancée. Voilà.
On va peut-être le lire.
Ah, faut peut-être le lire, quand même, oui.
Qui veut bien?
Le plus beau chant de Salomon. Qu'il m'embrasse à pleine bouche. Car tes caresses sont meilleures que du vin, meilleures que la senteur de tes parfums. Ta personne est un parfum raffiné. C'est pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi. Entraîne-moi après toi, courons. Le roi me fait entrer dans sa chambre. Soyons heureux et joyeux grâce à toi. Célébrons tes caresses plus que du vin. C'est à mon droit qu'elles sont amoureuses de toi. Je suis noire, moi, mais jolie, fille de Jérusalem, comme les tentes en poils sombres, comme les rideaux somptueux. Ne faites pas attention si je suis noiraude, si le soleil m'a basanée. Mes frères m'ont tanné, ils m'ont mise à surveiller les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas surveillée. Explique-moi donc, toi que j'aime, où tu feras paître, où tu feras reposer à midi, pour que je n'aie l'air d'une coureuse près des troupeaux de tes camarades. Si tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes, toi, sors sur les traces du bétail et fais paître tes biquettes près des demeures des pâtres.
Oui, c'est la traduction écuménique de la Bible. Il faut croire que le mot biquette est tout à fait écuménique. J'avais d'autres traductions, j'avais les chevreaux. Mais de toute façon, c'est un hébreu assez populaire, justement. Un hébreu assez... qui métisse les niveaux de langue, en fait. Vous voyez aussi que les canons de la beauté peuvent être variables selon les civilisations, puisqu'elles s'excusent d'avoir la peau bronzée. On a la même chose chez Virgile, où on nous dit que Amintas, le pâtre, à la peau brune et que malgré tout il est beau, etc. Voilà. Ce qui est très frappant, c'est qu'évidemment, ce genre de texte, pour des raisons que Marc évoquait, a très vite été lu de manière très allégorique, c'est-à-dire, oui, l'alliance de Dieu et d'Israël, et tout ça c'est vrai, bien sûr. Puis, dans la prédication chrétienne, on en a fait une allégorie de l'alliance entre l'Église et le Christ. En plus, ça tombe bien, il y a un pôle masculin et un pôle féminin, puisque Ecclésia est un mot féminin. Donc les épousailles, les fiançailles, les noces qui anticipent le banquet des noces eschatologiques, donc les noces de Dieu et de l'humanité, puisque l'Église, au fond, est le sacrement de l'humanité entière. Mais bien sûr, dans tout symbole, comme dans tout trope, c'est-à-dire toute figure... on entend trop le... Oui. Une fois, on s'était privé de micro, d'ailleurs. Mais... Ça va, c'est pas trop désagréable? D'accord. Dans toutes les figures de style de comparaison, métaphore, symbole, allégorie, etc., il y a un comparant et un comparé. Et bien sûr, le comparé, c'est Dieu et son peuple. Mais le comparant, c'est quand même une histoire nuptiale, c'est-à-dire une histoire charnelle. Et effectivement, on ne peut jamais comprendre un symbole ou une métaphore si on ne sait pas de quoi on parle. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, dit Baudelaire, c'est dans Harmonie du soir. Si on ne sait pas ce que c'est que le sang qui coagule, qui se fige, etc., l'image n'est plus parlante. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir, si on ne sait pas ce qu'est un ostensoir, ce qui est fréquent de nos jours... évidemment, l'image du souvenir qui rayonne comme un soleil, etc., échappe complètement. C'est vrai de toute métaphore. Mettez un tigre dans votre moteur si on n'a aucune idée du félin. Voilà. Donc, ici, c'est la même chose. Si on ne sait pas ce que c'est que des parfums, si on ne sait pas ce que c'est que des caresses, des fruits, si on n'a jamais eu même l'occasion d'expérimenter un parfum, etc., évidemment, ce que veut suggérer le texte biblique, c'est que on va entrer moins facilement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la lecture spirituelle ne peut pas s'affranchir d'un premier niveau de lecture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer. C'est une espèce de dialectique entre le concret et l'abstrait, ou entre le matériel et le spirituel. Mais ce n'est pas un spirituel désincarné. En plus, pour des chrétiens qui ne parlent que d'incarnation, on sait très bien qu'on ne peut pas être dualiste, qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, précisément. Hein, c'est le dogme de Chalcédoine, comme disait Maritain, hein, distinguer sans séparer, unir sans confondre. Donc évidemment, on peut distinguer les plans spirituels et charnels, mais on ne peut pas les séparer. Et précisément, si l'écrivain biblique a choisi, il n'a pas pris l'image... des fleurs des champs ou de l'arc-en-ciel. Il a pris l'image ici de l'union conjugale de l'homme et de la femme. Donc c'est très important. C'est pas seulement pour puiser dans un vivier ou dans un arsenal d'images un peu usées. C'est parce que ça doit faire absolument sens pour le juif de l'époque qui lit ça et qui comprend que ce qu'il vit avec son épouse est du même ordre que ce que son peuple vit, bonsoir, que ce que son peuple vit avec son Dieu, qui a donc une histoire d'alliance, c'est-à-dire aussi une histoire où deux êtres s'épousent, ne font plus qu'un, et puis sont appelés à la joie, à la communion dans la joie, etc. Donc effectivement, toutes ces images de parfums, de fruits, de caresses, d'anxiété, lorsqu'on découvre que l'autre n'est plus sur la couche la nuit, etc., qu'on se lève pour aller le chercher, c'est magnifique, hein. Saint Jean de la Croix, dans son cantique spirituel, reprendra, dans la nuit obscure, reprendra la même image. Il dit « Je me suis levé, c'était de nuit ». Et je suis allé à la recherche aussi, hein, de celui que mon cœur aime, de l'époux. Donc, si on en fait des métaphores dévitalisées, usées, des fleurs de rhétorique, ce qui est toujours, bien sûr, la tentation et ce qui est toujours le risque, surtout lorsqu'on reçoit des textes patrimoniaux comme ça de notre histoire littéraire, on a une vénération spontanée pour ce texte et donc il y a une certaine patine, il y a une certaine poussière et du coup on n'ose pas trop soulever la poussière de peur que les pages elles-mêmes tombent en poudre. Alors non, au contraire, il faut essayer de puiser nous-mêmes dans nos propres expériences. Alors certains, ça va peut-être, ils auront des images excessives, d'autres des images plus sporadiques, mais c'est en puisant dans nos propres expériences qu'on arrivera à construire la plénitude du sens de ce texte. Voilà. Il n'y a pas de sens possible de ce texte si on n'a pas goûté d'une certaine manière à la saveur du monde créé. Saint Augustin l'a souvent dit, parce que lui estimait qu'il avait trop goûté à la saveur du monde, et que précisément, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est sévère avec les plaisirs physiques, les plaisirs sensoriels, parce que précisément il estime qu'il a trop donné, son tempérament d'homme d'Afrique du Nord l'avait conduit peut-être à une forme d'hédonisme, sur lequel il revient, si l'augustinisme quelquefois a pu ternir un peu l'usage des plaisirs, c'est probablement aussi, le père Caffin le disait souvent d'ailleurs, je me souviens, c'est précisément parce que Augustin est l'homme qui passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'après avoir eu une jeunesse un peu licencieuse, il découvre finalement l'unique nécessaire. Il découvre Dieu et tout le reste à côté est insipide, incolore d'une certaine manière. Mais en fait, quand saint Augustin parle, il parle de lui, il parle de son expérience dans les confessions. Et on a peut-être trop transposé ce que lui-même disait pour en faire une loi, alors que lui, finalement, ne parle que de lui. Et je pense que c'est vrai de tout lecteur d'un texte comme celui-là. Ça s'adresse à notre expérience la plus intime. Voilà. C'est pour ça que c'est des textes qu'il faut lire, et qu'il ne faut pas lire avec trop de vénération, qu'il faut lire justement en essayant d'éveiller en nous des souvenirs aussi qui sont sensoriels.
Oui, mais saint Augustin aussi, c'était... Bon, il y avait son expérience, sans doute, aussi, d'homme qui a vraiment joui de la vie. Il a fait un enfant comme ça, il aimait beaucoup la fête avec ses amis, et il était réfractaire finalement à saisir justement ce qu'essayait de lui transmettre sa mère, sainte Monique. Mais cela dit, il y avait aussi, je pense, derrière mais ça c'est un peu comme un François d'Assise ou comme d'autres finalement, qui avaient eu des vies, ou Ignace de Loyola. Mais saint Augustin, derrière, il y avait quand même aussi une philosophie, en fait, une philosophie, je ne sais pas quoi, plotinienne ou quelque chose comme ça, où il y avait quand même fondamentalement, ou peut-être chez les manichéens, il a pu apprendre ça aussi, fondamentalement, au niveau de la réflexion, au niveau de la philosophie de vie, le fait que la chair était quelque chose qui était quand même plutôt méprisable, plutôt une prison pour l'âme, plutôt un frein, un obstacle. Et là, je crois qu'il n'était pas très, justement, biblique là-dessus. Parce qu'en fait, contrairement à un Origène, à un saint Jérôme, saint Augustin n'était pas tellement hébraïsant, n'était pas en contact, finalement. Et il a fait une lecture de l'Écriture quand même pas mal à travers le filtre, justement, d'une anthropologie, c'est-à-dire une conception de la personne humaine qui a été basée sur une anthropologie grecque, en fait, de cette philosophie grecque tardive. Et qui, à mon avis, ne donne pas une clé de lecture très fidèle à ce que dit la Bible et à ce qu'était le Christ. Le Christ qui est, voilà, on le critique, on dit voilà Jean-Baptiste, alors là oui, voilà un ascète, vous voyez, en mangeant, il mange que des sauterelles et du miel sauvage, voilà. Alors que Jésus, on dit mais voilà, c'est un ivrogne, un glouton, il vit la vie, et ça c'était critiqué, voilà. Et à mon avis à tort, parce que la beauté de la vie fait partie du... La beauté de la vie, même présente, fait partie des bénédictions. À mon avis, à ce moment-là, c'est pas la vie spirituelle, la foi n'est pas l'unique nécessaire. C'est, ça doit être le nécessaire ultime. Ça doit être ce qui va orienter, transformer, féconder les autres dimensions de l'existence. Ça doit transformer notre façon de boire, de manger, notre façon de vivre le couple, de vivre l'amitié, de vivre la façon d'aller acheter ses carottes, j'en sais pas moi, vous voyez, de faire la vaisselle. Et d'ailleurs, je retrouve ça, si vous voulez, dans, ici, il m'entraîne dans sa chambre, dans sa maison, si vous voulez, je sais pas où est-ce que c'est, il me fait entrer dans sa chambre. Mais ça, on le retrouve souvent dans les psaumes, par exemple le psaume... 22 et demi, 23, là, 22 chez les catholiques, 23 chez les protestants. Voilà, il y a l'idée d'habiter dans la demeure avec Dieu, voilà. Ou alors le psaume 27, je ne sais pas quel numéro c'est. Il y a une chose que je demande par-dessus tout à Dieu, c'est d'habiter dans son temple, hein, tous les jours de ma vie, en fait. Ça, on le retrouve, c'est-à-dire que voilà, c'est pas simplement... et les prophètes le disent souvent sur les psaumes... tous ces textes un peu mystiques. Il y a les grandes fêtes, il y a les grands tintouins au temple de Jérusalem, d'accord. Il y a les grandes fêtes, Pâques, machin, le Yom Kippour, d'accord. Mais chez ces spirituels, c'est plutôt habiter avec l'Éternel tous les jours de sa vie et donc vivre avec la présence de Dieu dans la vie quotidienne, justement, sans cette coupure entre le temps religieux et le temps profane. Le temps du rite et le temps de la vie courante, et bien c'est quelque chose qu'on retrouve, à mon avis, là-dedans en particulier, et dans l'image même du Cantique des Cantiques, du Shir HaShirim. Alors au début, par exemple, mais en fait, le problème, c'est oui, c'est pas très facile, alors encore un peu moins peut-être facile avec la traduction de la Tobe, qui veut le transformer en un texte littéraire, assez lisible, alors que chaque mot, si vous voulez, peut renvoyer à ce double sens et n'est pas forcément complètement évident en français. Qu'il m'embrasse à pleine bouche. Alors c'est vrai que en hébreu, il faudrait des notes en fait à chaque mot. Parce que le embrasser, ça veut dire à la fois embrasser et à la fois équiper, si vous voulez. Parce que c'est en mettre dans les bras, finalement, vous voyez. Et donc, ça peut vouloir dire équiper. Et à pleine bouche, voilà, de sa bouche, là on comprend en français qu'il est question de la bouche. Bien entendu, c'est le baiser des amoureux, mais dans le cadre de Dieu, quand on parle de la bouche de Dieu, on pense à sa parole. Et effectivement, la parole, entre les deux, va être souvent présente dans ce texte. Et donc le début du texte, c'est qu'il me donne de la force par sa parole. Et ça, on va le retrouver après chez Ésaïe, hein, que la parole de Dieu est ce qui vraiment donne force, donne vie, donne éternité. C'est ce qu'on a au début, voilà. Car tes caresses sont meilleures que le vin. En fait, c'est le mot amour, en fait. Alors, on peut le lire caresse parce que c'est un amour, justement, qui se dit charnel dans ce texte. Mais c'est l'amour, tout simplement, l'amour de Dieu. Ça vaut mieux que le vin. Alors, on peut le lire de plusieurs façons. On peut le lire, l'amour de Dieu, les caresses de Dieu. C'est assez concret, si vous voulez. Cette caresse peut-être dans la prière, dans le sentiment de cette présence d'un Dieu qui nous accompagne, en Christ en particulier, à mon avis, hein, qui est le Dieu parmi nous. Tes caresses sont meilleures que le vin, c'est meilleur que... L'amour de Dieu est meilleur que le vin de la Torah, diraient les Juifs. C'est-à-dire que le vin, c'est souvent une image de la parole faite mot, si vous voulez. Et ça, on le retrouve dans le vin, bien sûr, de la communion, hein, qui est le sang du Christ, qui est l'image de sa parole, qui s'incarne, qui se dit, qui se touche. Hein. Mais souvent, on dit le vin de la Torah dans la pensée hébraïque, rabbinique, et donc voilà, ça veut dire que l'amour de Dieu est même au-delà de la Bible, au-delà de l'Écriture, et dans ce contexte-là de l'Écriture, c'est assez subversif, bien sûr. meilleur que la senteur de tes parfums. Alors, les parfums, ça, on le sait un peu dans la Bible, le parfum, c'est... Ben d'ailleurs, chez les catholiques, vous êtes mieux placés encore que pour nous, parce que vous avez gardé ce symbole, ce signe hein, du Saint-Crème, c'est-à-dire de l'huile parfumée qui vient être, qui est signe de la bénédiction de Dieu. Mais là, c'est plus l'huile, en fait. Le parfum, c'est chémen, c'est l'huile, en fait. Et donc, c'est le signe, parce que l'encens, c'est plus le signe de la prière. Ouais. Alors parfumé. Que l'huile, là, c'est parfumé. Mais là, l'huile... C'est plus le signe de la bénédiction de Dieu et aussi du sacre, c'est-à-dire d'une bénédiction qui est responsabilité, qui est envoi, qui est mission, qui est vocation. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu subversif parce que ça veut dire que l'amour de Dieu et cette caresse qu'on peut sentir, donc d'un amour qu'on sent contre nous, c'est pas un amour désincarné, bien sûr, mais. C'est pas un amour purement abstrait, si vous voulez, de se connaître, l'amour de Dieu. Non, c'est un amour qu'on sent, voilà. Une caresse, c'est meilleur que la Torah et c'est meilleur même que l'huile sainte, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, le Saint-Crème qui sacre les rois, qui sacre David, Salomon, les prophètes, les prêtres. Vous voyez, c'est... Là, il se dit quelque chose contre la synagogue et contre le temple, j'allais dire. Hein, vous voyez, qui insiste sur la foi plus que le... Plus que les moyens de la foi, peut-être. En même temps, ta personne est un parfum raffiné. Alors là, bon, en fait, dans l'hébreu, c'est ton nom. Hein, et il y a un jeu entre Shem, le nom, et Shemen, l'huile. Donc, il y a un petit jeu de mots. Et puis, le parfum, si vous voulez, le parfum, c'est le même mot que c'est rouar, c'est l'esprit. En fait, on dit l'esprit d'un parfum, ben, en hébreu aussi. Donc, cet esprit du parfum, c'est l'esprit de Dieu, c'est la rouar de Dieu, cette présence féminine, fécondante de Dieu qui donne vie à l'homme, en fait, et qui le crée à son image. Donc, vous voyez, chaque mot, chaque expression dans ce texte est à double sens. Ça peut faire « ta personne est un parfum raffiné », c'est ce que peut dire des amants qui aiment l'odeur corporelle du... comme un parfum de la femme aimée, de l'homme aimé, mais ça dit aussi quelque chose de cet être même de Dieu qui répand son esprit et qui nous touche par cela, finalement. Hein. Donc vous voyez, tout est comme ça, finalement, dans ce texte. Alors il y a des choses qui sont peut-être difficiles en première lecture, parce qu'il faudrait se pencher... sur l'hébreu et se poser la question à chaque phrase de qu'est-ce que ça peut vouloir dire au sens théologique et spirituel. D'autres sont plus naturels, comme « entraîne-moi, courons ». Ça, c'est magnifique, je trouve, et ça parfaitement clair en première lecture. Hein, ce Dieu qui n'est pas un Dieu, vous voyez, un amour statique, on se regarde les yeux dans les yeux, mais c'est une dynamique, un cheminement... et ça, on le retrouve particulièrement en Christ. Hein. C'est pas quelque chose de statique. Le Christ dit hein, « Je suis le chemin, le cheminement, hein, la vérité ou la fidélité et la vie ». C'est une dynamique joyeuse. Ben voilà, c'est ça qu'on retrouve ici. C'est cette joie d'être entraîné par Dieu et de courir ensemble. Hein. Voilà. Et puis d'être dans une intimité avec lui, dans des temps peut-être plus de... je ne sais pas si c'est plus statique, mais la dynamique va se faire autrement, va se faire dans des jeux amoureux, des découvertes, des caresses. Et soyons heureux et joyeux grâce à toi. Voilà, c'est cette joie d'être unis à Dieu dans une mystique, où je pense que c'est ça, en fait, sur lequel ils insistent, plus même que le rite, les fêtes, ou la Torah, la Bible.
Alors c'est intéressant, effectivement, de parler de l'huile et de son importance, parce qu'effectivement, dès que le mot parfum apparaît, et il apparaît souvent hein, dans le Cantique des Cantiques, il s'agit d'huile. Donc, effectivement, pour nous, le support d'un parfum, c'est de l'alcool, mais c'est très récent, ça date de deux siècles. dans l'Antiquité, c'est l'huile qui est le support de l'alcool, du parfum. Donc, dès qu'on parle du parfum, on est dans un réseau d'images qui évoque le Messie, puisque le Messie, c'est celui qui est frotté d'huile, Massiar, celui qui a reçu l'onction d'huile, celui qui est oint, celui qu'on a oint. Donc, effectivement, on est dans un climat messianique, en fait, mais uniquement par le pouvoir de suggestion, du langage et des métaphores. On est dans un climat messianique, on est dans un, mais au sens pas idéologique du mot messianique, mais au sens le plus concret, puisque Christos aussi en grec, hein, c'est celui qui est frotté d'huile, qui a reçu l'onction. Donc effectivement, on a tout de suite des connotations très particulières, parce que le parfum, du coup, c'est pas seulement ce qui sent bon dans le Cantique des Cantiques, c'est ce qui imprègne. C'est ce qui pénètre, c'est ce qui assouplit. Donc il y a une dimension aussi spirituelle. On dit ça dans le Veni Sancte Spiritus, assouplit ce qui est rigide. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont une vision intransigeante du religieux. Ben, il faudrait leur faire lire ces grandes prières qui avaient la conscience très vive que l'esprit assouplit. L'esprit, c'est comme une huile qui vient... Tout ce qui est, les sportifs le savent, tout ce qui est raide, tout ce qui est rigide, tout ce qui est tendu, doit être assoupli. Donc on est dans ce climat, dans ce réseau d'images, effectivement, d'imprégnation, de pénétration, d'assouplissement, etc. Uniquement par ce mot qui, en effet, est un mot un peu paronyme du mot Shem, qui veut dire le nom. Donc le nom de Dieu, Hashem. C'est le nom de Dieu, c'est aussi, c'est comme une huile, hein. C'est comme un parfum qui assouplit. Donc vous voyez que même par les mots, ça c'est très juif d'ailleurs, par les mots, Dieu parle, par les mots humains, il fait sentir sa présence. Alors pour revenir, et puis ensuite on passera au texte prophétique, mais pour revenir sur cette idée... du symbole, c'est-à-dire l'union nuptiale qui évoque l'union de Dieu et de l'homme. Quand je parlais d'unique nécessaire, c'était c'est la parole de Jésus à la sœur de Marthe, à Marie. Marie a choisi l'unique nécessaire. Donc l'unique nécessaire, c'est d'être au pied de Jésus, de l'écouter. Donc c'est relativement incarné. C'est pas non plus, c'est pas le Dieu des rénaux flamands. C'est pas
oui, il y a marqué la meilleure part, il y a marqué.
Oui,
a marqué
la meilleure part. Nécessaire. Oui, mais dans la Vulgate, c'est unicum necessarium. Oui, oui.
Bah, c'est là qu'à mon avis, c'est une traduction qui est imprécise.
Qui est imprécise, oui.
Oui, parce que la meilleure part, c'est d'accord, c'est la meilleure part, l'unique nécessaire, du coup, ça devient quelque chose de désincarné et ça devient une foi, un objectif purement spirituel, alors que non, ça doit être la meilleure part.
C'est vrai, Juste pour en terminer avec ce Cantique des Cantiques, donc on voit bien que. Ce que propose la Bible dans cette espèce de glissement entre le plaisir et la joie en Dieu, c'est de tenir une ligne. Alors là, il y a tout un camailleux possible, mais il y a deux obstacles. Il y a Charybde et Scylla. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait une sorte de puritanisme, je n'aime pas dire ce mot qui est devenu à la mode d'ailleurs depuis quelque temps. On en parle beaucoup, mais le puritanisme, c'est aussi une grande tradition de l'histoire des églises chrétiennes. Mais en tout cas, dans la manière dont souvent on se représente le puritanisme, donc la Bible n'est pas puritaine, c'est-à-dire que le plaisir n'est pas coupable, mais d'un autre côté, l'hédonisme, la quête effrénée du plaisir pour lui-même, licencieux, etc., n'est pas non plus présenté comme un chemin de vie. Oui. Donc le chemin de vie est présenté effectivement, et ça c'est à chacun, oserais-je dire, de bricoler, c'est-à-dire de, dans la confiance et en se remettant à Dieu dans la prière qui nous rend précisément attentifs à ce qui est en dehors de nous, parce qu'au fond c'est ça, il faut sortir le soi à un moment, hein, c'est pas très nouveau et toutes les traditions spirituelles le disent. Donc il y a ce chemin entre le plaisir coupable et puis le plaisir recherché pour lui-même. C'est-à-dire le plaisir doit toujours être une sorte de grâce. C'est-à-dire il est accueilli, il est donné, il est offert. Mais si on commence à le rechercher pour lui-même, c'est vrai qu'on tombe, voilà, dans ce qu'on appelle le péché capitaux, hein, la gourmandise, la luxure, tout ça, ce sont effectivement des voies qui peuvent devenir des impasses et même des figures de l'enfer quelquefois, lorsque la technique est mise au service de l'assouvissement de ces plaisirs-là. Donc il y a ce chemin qui est beau, qui n'est pas forcément la porte étroite, hein, qui est un chemin magnifique, assez large, entre une culpabilité malsaine et puis un usage également malsain des plaisirs. Donc il faut humaniser les plaisirs, il faut les diviniser, puisqu'au fond, pour la tradition chrétienne, c'est la même chose, on humanise ou on divinise les plaisirs en les transformant, en les convertissant, en les purifiant parfois, en faisant du lieu des convoitises égoïstes un lieu de conversion vers Dieu, qui est donc le bien-aimé qui a quitté sa couche et qu'on va chercher de nuit. Je trouve ça magnifique, l'idée que notre vie, c'est ça. On va chercher de nuit, c'est-à-dire comme ça, sans la lumière artificielle, celui que notre cœur aime et qui s'est éloigné un peu de sa couche et que l'on va chercher comme ça dans la nuit. Donc, il ne faut pas faire fi du plaisir, il faut lui redonner une place dans l'économie globale de la foi, mais ça n'est pas la première, bien sûr, hein, c'est tout le problème des cultes érotiques de l'Antiquité, à Vénus, etc. Parce que de fait, il y a dans l'éros, il y a quelque chose qui vient, je ne vais pas dire singer la relation à Dieu, parce que ce serait péjoratif, mais quelque chose qui peut être une fausse promesse, voilà. La promesse d'être comme des dieux, voilà. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, vous serez comme des dieux. Et c'est probablement là que la promesse est la plus forte, alors qu'elle soit tenue ou non tenue, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même une fausse promesse, parce que à un moment, la joie du croyant, c'est dans sa finitude, c'est-à-dire dans son chemin mortel qu'il doit la vivre. Et c'est ce qu'on va voir avec précisément les prophètes, puisque le texte qu'on a choisi au mois de juillet, vous allez le voir, fait de la joie quelque chose d'assez paradoxal. On va lire peut-être.
Réconfortez mon peuple, vous, votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur deux fois le prix de toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert: dégagez un chemin pour le Seigneur, mettez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une pluie. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée, et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit: proclame. L'autre dit: que proclamerai-je? Tous les êtres de chair sont de l'herbe, et toute leur constance est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur vient sur elle en rafale. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix. Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté. Voici avec lui son salaire, et devant lui sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau, que son bras il rassemble. Il porte sur son sein les agnelés, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Chantez pour le Seigneur, chantez-vous. Chantez sa louange. Depuis l'extrémité de la terre, gens de la haute mer et tout ce qui l'entoure, les îles et leurs habitants. Qu'élève la voix, le désert et ses villes, les villages où habite Kedar. Que les habitants du roc poussent des acclamations, du sommet des montagnes qu'ils lancent des vivats. Qu'on rende gloire au Seigneur, qu'on publie dans les îles sa louange. Le Seigneur, tel un héros, va sortir, tel un homme de guerre. Il révèle sa jalousie, il pousse un feu d'alarme. Un grondement et contre ses ennemis se comporte un héros. Je suis depuis longtemps resté inactif. Je ne disais rien, je me contenais comme une femme en travail. Je gémis, je suis forte et je suis oppressée tout à la fois. Je vais dévaster montagnes et collines et toute leur verdure, je la dessécherai. Je transformerai les fleuves en rivières et les étangs, je les dessécherai. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin inconnu d'eux. Sur des sentiers inconnus d'eux, je les ferai cheminer. Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière et les détours en ligne droite. Ces projets, je vais les exécuter et nullement les abandonner. Les voici rejetés dans la terre, tout honteux, ceux qui mettent leur assurance dans une idole, ceux qui disent à du métal fondu, mon Dieu, c'est lui.
On va peut-être arrêter là, parce qu'en fait, comme il y a trois extraits, on va présenter les deux premiers, et puis voilà.
Alors c'est vrai qu'on connaît bien ce texte, spécialement par le... Parce qu'il est cité dans le début de l'Évangile selon Marc, je pense, oui, particulièrement, mais c'est vrai que c'est un texte qui a un souffle quand même extraordinaire, je trouve, et qui est très encourageant.
Et le temps de l'Avent va bientôt...
Donc pour le temps de l'Avent, voilà, c'est bien préparé, parce que c'était cette annonce pour se préparer à la venue du Seigneur, ou alors préparer plutôt à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre humanité, les routes pour la circulation de Dieu dans notre existence, dans notre vie tout entière, peut-être justement jusque dans nos alcôves, j'allais dire, que ça vienne irriguer notre existence tout entière, notre vie tout entière et l'humanité tout entière. C'est ça, hein, aller tracer des chemins pour notre Dieu, ça parle aussi d'une incarnation de Dieu, c'est-à-dire d'un Dieu qui se rapproche de l'homme et qui vient dans son existence. Mais d'abord, réconforter mon peuple, consoler mon peuple, c'est un appel à être prophète. Alors on pourrait dire, est-ce que ça s'adresse qu'à Ésaïe le prophète, ou alors ce deuxième Ésaïe, ou ce troisième Ésaïe, enfin c'est vrai que c'est des traditions qui se rattachent au prophète Ésaïe qui a commencé le livre, quoi, en fait. Mais ce texte, il est écrit pour un lecteur, si vous voulez, pour des lecteurs. Et donc ce texte, il s'adresse à nous pour qu'on se mobilise comme prophète. Mais plus que comme prophète, parce que le prophète, nous, dans notre idée, il parle, en fait. Donc c'est la deuxième mission, hein, parler au cœur de Jérusalem et proclamer lui une bonne nouvelle, finalement. Mais la mission du prophète, c'est de réconforter. C'est pas évident, parce qu'on pourrait dire ça, c'est le travail de Dieu. À la limite, nous, on serait là pour faire les présentations, pour dire à la personne qui est à côté de nous, ou dire à nous-mêmes aussi, parce que nous sommes aussi appelés à être notre propre berger. T'as un Dieu là qui est la source du réconfort, du salut, de la joie, du bonheur, de la vie éternelle, d'un salut, voilà. Mais va le puiser à la source. Mais là, dans un sens, il nous donne un travail divin à faire, d'être source de réconfort. Le mot est assez fort, en fait, réconfort. C'est presque une transformation qui est en cause. Hein. C'est pas simplement le réconfort, c'est la transformation de l'humeur, de l'optimisme, de la joie, effectivement. De la peine en joie, en capacité à être heureux. C'est plus profond que ça. C'est un changement, on pourrait dire une conversion, hein, dans le langage, le patois chrétien. C'est ça aussi, si vous voulez. Hein, quand on dit ensuite la prédication de Jean-Baptiste, repentez-vous. C'est pas non plus la repentance, c'est la repentance, ça fait un peu moraliste. C'est plutôt changer d'orientation, changer de façon d'être, changer de logiciel, on pourrait dire, pour parler en termes informatiques. Donc c'est ça, réconforter mon peuple, c'est la première mission. Disons, voilà, vous êtes gardien. C'est Caïn qui dit, suis-je le gardien de mon frère? Ben oui. Sois gardien de ton frère, débrouille-toi, dépatouille-toi pour le réconforter, le remettre en ordre de marche, en ordre d'être heureux. Et on le dit deux fois, c'est enfoncer le clou, insister. Mon peuple dit votre Dieu. Ça, c'est un peu étrange. Pourquoi il n'y a pas marqué dit notre Dieu? Je crois que c'est un peu un jeu de mots, un écho. Hein. Souvent, dans la Genèse, dans le Pentateuque, hein, dans les cinq premiers livres, dans la Torah, il y a cette promesse. Hein. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc c'est en écho à ça, à mon avis. Voilà, c'est comme une alliance qui se tisse, une alliance dont nous sommes le messager. Ce qui est quand même immense, je trouve. De ça. Et puis alors, ça c'est le programme, hein, la mission qui nous est confiée, d'être, on est nommé prophète. Alors ça, on le dit lors de nos baptêmes, hein, baptême d'enfant, baptême d'adulte, on dit, par le Christ, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois, et l'onction, on parlait de l'onction, c'est un peu ça aussi, c'est une onction de prêtres, de prophètes et de rois dans la Bible, et donc en effet là... c'est pas une onction d'huile, c'est une onction, on dirait par l'Esprit Saint, encore une fois dans notre patois, mais par Dieu lui-même, par cette présence de Dieu, ça peut être une expérience aussi assez mystique peut-être, de se sentir appelé à être source de réconfort, de transformation du monde, de transformation des humains au nom de Dieu. Alors ça peut commencer par la parole, oui, proclamer que la corvée est remplie. Alors il y a marqué que ton châtiment est accompli. Moi je lirai plus, que ta faute est acquittée, si vous voulez. D'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la suite, hein, que Jérusalem, hein, a reçu de la main du Seigneur, de la main de l'Éternel, de la main de Yahvé, hein, deux fois le prix de toutes ses fautes. Et donc c'est plus qu'un acquittement gratuit, un pardon gratuit. Il n'y a pas besoin d'accomplir un châtiment pour que Dieu pardonne. C'est la propre de l'amour, c'est ça, c'est de pardonner gratuitement par amour. Voilà. Et c'est même plus que par amour, parce qu'à la limite, le pardon, on efface l'ardoise. Là, c'est même plus que ça. C'est une prime au voleur, hein, presque. Hein. Mais c'est assez beau, c'est-à-dire que oui, c'est le médecin, il donne une prime au malade, il soigne, il s'occupe, il donne du médicament au malade, donc c'est un peu le cas, celui qui faute, ben, c'est celui qui a le plus besoin du réconfort, de l'amour de Dieu, de son pardon, de sa pédagogie, et en Christ, c'est bien ce qui est dit, si vous voulez, hein, que le Christ est là pour les pécheurs, hein, il s'occupe de ceux qui se portent mal, ben oui... Ceux qui se portent bien, ils sont déjà assez en forme pour discerner leur chemin, avancer par leur propre créativité, leur propre personnalité. Alors comme on est tous pécheurs, on a tous besoin quand même de Dieu, heureusement, sinon on serait bien seul, mais il y a quand même cette idée qui est présente ici, si vous voulez, d'un Dieu qui aime ses ennemis, qui aime même le coupable. Hein. Alors ça c'est la première mission peut-être, c'est de parler, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et puis ensuite, eh bien, c'est d'appeler à se mettre au travail, c'est-à-dire de tracer les chemins pour Dieu et de faire place à la présence, à la circulation de Dieu dans notre existence. Hein. Une voix proclame, dans le désert, dégagez un chemin. Alors peut-être on peut voir aussi un appel à aller dans le désert, hein. C'est-à-dire, comme les Hébreux, sentir cette libération de Dieu hors du péché, hors des par son amour, on peut se sentir vraiment libéré. C'est ce qui est dit, je pense, dans le début. Ça fait référence à la libération hors d'Égypte, libération du péché, libération de l'esclavage, libération de nous-mêmes, de notre colère, de nos préjugés, notre paresse, tout ce qui peut dysfonctionner, nos blessures anciennes, nos rancœurs, rancunes... je sais pas quoi. Enfin bref, après s'être senti comme ça libéré, se mettre comme dans le désert, c'est-à-dire dans cet entre-deux où on cherche auprès de Dieu à savoir que faire, quel cheminement, quel voilà, je sais pas. Donc je verrai un peu cet écho de l'histoire du peuple hébreu, de la Pâque aussi.
Effectivement, oui, c'est un texte qui récapitule beaucoup de choses, hein, qui est très dense, il y a une grande densité spirituelle, théologique, l'idée d'une restauration du temple, la nouvelle Jérusalem, d'un nouvel exode, le retour d'exil, et puis cette vision d'un Messie, qui est d'ailleurs l'empereur perse, hein, Cyrus, qui ignorait tout du Dieu des Juifs, mais qui est le Messie à ce moment-là, puisque à la fin du VIe siècle, Babylone est vaincue par les Perses, et c'est le roi de Perse qui permet aux notables judéens, qu'on va appeler judéens, c'est-à-dire juifs, hein, le mot juif c'est judéen, le mot apparaît à ce moment-là, il permet aux notables qui avaient été déportés de revenir massivement à Jérusalem, sur la colline de Sion, de restaurer leur culte, leur monothéisme. Et c'est là que Israël prend conscience, enfin Judas prend conscience de la dimension universelle, universaliste de son Dieu. Jusqu'à présent, le Dieu d'Israël était le Dieu de la tribu. Tout d'un coup, ils prennent conscience que c'est le Dieu créateur, et qu'il est au-dessus de tous les autres dieux. Donc c'est évidemment très important, ça va être le nouveau temple, le second temple, c'est là qu'on met par écrit la Bible, hein, fin du VIe siècle, donc c'est vraiment un moment dans l'histoire d'Israël qui est capital, ce retour, ce Dieu qui fait revenir à lui, qui fait revenir sur la terre des ancêtres, etc. Moi, j'aime beaucoup ce livre de la Consolation. Il a été très inspirant. Si vous êtes mélomane, vous connaissez le Messie de Handel qui commence par ces mots, hein. Réconfortez, réconfortez mon peuple. C'est l'aria de ténor, juste après l'ouverture. Comforting my people, save your God, speaking to Jerusalem, etc. Et puis, toute la première partie du Messie, qui est sublimement belle, est tiré du livre de la Consolation, hein, du deuxième Isaïe, du Deutéro Isaïe. Les chants du serviteur, les quatre chants du serviteur, qui sont tout à fait énigmatiques, sublimement beaux, et que la prédication chrétienne a évidemment attribué ensuite à la figure de Jésus, sont aussi dans ces chapitres 40, 50, etc. Et le chapitre 55, qui est le dernier, je crois, est très connu parce que c'est là qu'il y a ces versets sur la parole de Dieu qui ne retourne pas sans avoir fait son travail. C'est-à-dire qui descend, qui ameublit le sol comme la rosée. Vous savez, c'est une image qu'on trouve beaucoup pendant le temps de l'Avent aussi. Cette image de la rosée qui vient imprégner le sol, qui féconde le sol et qui retourne à Dieu, mais après avoir fait son ouvrage, etc. Donc, si vraiment il y a une lecture à faire d'ici Noël, c'est le livre de la Consolation, c'est-à-dire les chapitres 40 à 55 d'Isaïe, parce que voilà, c'est époustouflant, c'est magnifique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement les prophètes étaient souvent des prophètes de malheur, hein, qui disaient, attention, c'est l'apostasie, Israël a trahi, Israël s'est tourné vers les idoles, et donc voilà, les Assyriens vont venir, puis l'Égypte ou Babylone, Nabucodonosor, etc. C'est ça les prophètes, hein, ça, ils sont courageux parce qu'ils vont voir les hommes de pouvoir et ils leur disent leur fait. Hein, il faut imaginer ce que c'était, parce que là aussi on a des lectures pieuses, mais il fallait arriver à enfreindre les deux pouvoirs sacerdotaux et royaux, enfin sacerdotal et royal, et prendre la parole. La parole du prophète est beaucoup plus anarchique. Certes, elle devient institutionnelle à certains moments, mais c'est quand même une parole un peu libertaire, un peu courageuse. Donc ici, ce n'est pas un prophète de malheur qui parle, c'est un prophète de consolation, précisément, et comme disait Marc, c'est déjà un évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle. Et c'est très frappant, moi ça me fait penser, vous savez, les enfants, quand ils ont fait quelque chose, ou qu'ils ont... ils ont fait une bêtise ou qu'ils ont découvert que le monde était compliqué et résistant et que ils ont mis la main sur une plaque ou dans, je sais pas, enfin où ils ont bu la tasse, où ils ont fait enfin une expérience désagréable, ils ont pleuré, ils ont traversé l'épreuve et on les console et on leur dit c'est fini, je suis là, hein, c'est fini, je suis là. Ben pour moi, c'est ça. Dieu nous dit ça. C'est fini, je suis là. C'est-à-dire, il y a un après. On a traversé des moments difficiles, mais on est dans le temps de l'après. Et cet après est sous le signe d'une présence. Voilà. C'est fini. Je suis là. Je suis avec toi. Donc, une parole, parce qu'effectivement, le Dieu d'Israël est un Dieu qui parle, qui a quelque chose à dire. Et nous-mêmes, on en fait l'expérience sans cesse, on a besoin quelquefois de s'entendre dire des choses, quelquefois de correction fraternelle, c'est difficile à encaisser, sur le coup, on trouve ça difficile, mais aussi on a besoin de paroles de consolation, y compris à notre âge d'ailleurs, pas seulement pour l'enfant, nous aussi on attend que quelqu'un nous dise « je suis là, n'aie pas peur, c'est fini », voilà. Et jusqu'à notre dernier jour, hein, je crois que c'est important. Et donc cette parole d'une certaine manière dit l'histoire, puisque pour qu'il y ait un après il faut bien qu'il y ait une histoire, quelque chose s'est passé, quelque chose qui était désagréable, quelque chose qui est fini, voilà, c'est ce que dit le prophète ici, hein. Sa corvée est remplie, son châtiment est accompli, tout ça c'est fini, c'est derrière nous, on oublie. Donc on a besoin aussi que notre Dieu soit un Dieu qui raconte une histoire et qui nous dise que voilà, après la pluie il y a le beau temps, et que ce beau temps c'est une présence, c'est quelqu'un qui est là avec nous, qui ne nous quitte pas. Ça c'est fondamental, on est dans quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de consolation abstraite, il n'y a pas de consolation idéologique, c'est pas un slogan qui va nous rassurer, c'est quelqu'un qui est vraiment à côté de nous et qui est là et qui nous dit c'est fini, je suis là. Donc une parole qui dit l'histoire et qui dit une présence et qui donne le sens de l'histoire. Qui ne dit pas que l'histoire est un tissu d'absurdité. Hein. Comme dit Shakespeare, là, un conte dit par un fou rempli de bruit et de fureur. Non, que l'histoire a un sens évidemment compliqué, complexe, qui ne nous satisfait pas, qui voilà, mais... Un sens qui va vers un accomplissement. Voilà, son service est rempli. Alors, d'autre part, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que, puisque le titre de notre séance, c'est « Crier de joie ». Voilà, alors, justement, c'est intéressant. Là, on nous dit, regardez, c'est au début, c'est à peu près à la ligne 12, une voix dit « proclame », l'autre dit « que proclamerai-je ». Alors, dans la Bible de Jérusalem, c'est une voix dit « crie », justement. Et l'autre dit « que crierai-je ? Que vais-je crier ?» Alors, nous, on a dit « crier de joie », justement, c'est intéressant. C'est ce que disent tous les psaumes, « crier de joie ». Et là, la voix dit « crie, que crierai-je ? » Et regardez la réponse, c'est très étrange. « Tous les êtres de chair sont de l'herbe, et toute leur constance est comme la fleur des champs, l'herbe sèche. » La fleur se fane, donc elle se flétrit, quand le souffle du Seigneur vient sur elle en rafale. Ça alors, on dit toujours que le souffle de Dieu, au contraire, renouvelle la face de la terre, que le souffle de Dieu recrée. Et on n'avait jamais dit que le souffle de Dieu fanait, flétrissait, etc. Alors c'est assez étrange de voir ça. Ben oui, parce que c'est aussi le Dieu qui donne la vie et qui donne la mort. Et c'est par le Dieu des morts, bien sûr. Mais c'est une mort qui fait partie de la vie. Et découvrir qu'on est comme l'herbe des champs qui se fane, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas justement une source d'angoisse profonde. Évidemment, au plan existentiel, ça l'est. Mais pour l'écrivain biblique, il y a, d'une certaine manière, crier de joie n'est pas incompatible avec cette découverte-là. Que la vie est comme l'herbe des champs, qu'elle... Voilà. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur vient sur elle. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Alors, ça, c'est fantastique. Saint Paul, dans dans l'épître de dimanche dernier, disait finalement on se rassemble uniquement pour rendre gloire à une parole. Alors, nous on le dit souvent, vous savez, on en parle souvent de manière trop comment dire, un peu pavlovienne, on dit la parole de Dieu, etc. Mais c'est une parole qui n'est pas une parole construite, artificielle, rhétorique, c'est une parole très fondamentale, c'est une parole qui nous est adressée. Rappelez-vous ce qu'on reproche aux idoles dans toute la Bible. Elles sont muettes, elles ne parlent pas, voilà. Elles sont nulles, elles ne valent pas le coup, c'est pas la peine, elles n'ont rien à dire, elles ne parlent pas. Le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai, c'est un Dieu qui parle. Alors évidemment, il ne parle pas, justement, il parle de manière tellement discrète, vous savez, c'est l'expérience d'Élie, hein, de manière tellement discrète qu'il faut tendre l'oreille intérieure pour l'entendre. Il parle par ses prophètes, qui sont ses porte-paroles, justement. Mais il parle, et il continue d'ailleurs de parler. Hein. Il ne faut pas croire que la Bible a fossilisé et embaumé la parole de Dieu. Justement, la parole de Dieu est vivante, elle court, hein, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas mettre la main dessus, justement. C'est en ça que Jésus est la parole de Dieu. Donc c'est magnifique, vous voyez, c'est ça la bonne nouvelle. Voilà, il faut crier de joie parce que notre Dieu parle, et finalement, ben, nous, on se fane, etc. Mais ce n'est pas dramatique parce qu'il y a quelque chose de plus fondamental, de plus permanent. Il y a cette parole qui nous convoque et qui nous fera revivre.
Oui, alors c'est vrai qu'on a dans ce texte l'idée de retournement de perspective, en fait. Hein, les vallons doivent être relevés et puis les montagnes doivent être rabaissées. On retrouve quelque chose de cet ordre dans le Magnificat, dans le Cantique de Marie, où il y a cette joie des fausses hauteurs qui sont nivelées. Et tu parlais de se prendre pour Dieu dans un sens, dans la gloutonnerie, la concupiscence. C'est quand on met comme préoccupation ultime de son existence la simple jouissance des sens, hein, ou de l'adoration de soi-même. C'est pas que ce soit la jouissance soit mauvaise, c'est mauvais quand ça devient une adoration. Et ces fausses adorations, ces mauvaises adorations, à mon avis, c'est ça qu'évoquent ces montagnes qui doivent être abaissées. Parce que la montagne, c'est le lieu de culte, c'est le lieu d'élévation. Alors, on peut croire s'élever, par exemple, dans un orgueil personnel, dans une mauvaise conception de la dignité et de la hauteur. Par exemple, on peut se croire plus grand en écrabouillant les autres, en possédant plus, machin. Et puis, en fait, peut-être que ce souffle, cette annonce qui est faite de dire que notre chair, c'est pas nous qui sommes comme de l'herbe, c'est toute chair est comme l'herbe. C'est là que c'est mal traduit, je crois, que ce truc de la taupe. C'est pas tous les êtres de chair sont de l'herbe, c'est toute chair est comme l'herbe. La chair, c'est une des dimensions de notre être. Hein. C'est pas tout, c'est une dimension qui est temporaire. Et dans un sens, c'est quand même utile de percuter qu'un jour, effectivement, il faudra partir tout nu. C'est pas pour sans désespérer, c'est pour replacer les choses en perspective. C'est pas pour dire que l'argent, c'est que de la crotte. C'est pour dire le replacer en perspective au service de quelque chose qui est plus grand. Point, c'est tout. C'est pas pour s'en désoler, c'est pour saisir un petit peu comment ça se passe pour investir dans ce qui en vaut la peine. Donc il y a l'idée d'une mise en perspective, que nos fausses hauteurs soient rabaissées. Nos creux, c'est nos faiblesses, nos manques de foi, nos manques d'amour, nos manques d'espérance, que ça soit comblé, que ça soit relevé, que ça soit réconforté. Et donc, tous les êtres, toutes les chairs ensemble, et c'est là que, du côté universaliste que tu disais, c'est assez beau, hein, on pourrait même y voir, parce que la chair, il y a presque les animaux avec, hein, c'est pas complètement exclu qu'ils soient en dehors de cette grande économie du salut, j'en sais rien, j'ai pas eu de révélation particulière là-dessus. En tout cas, c'est bien sûr, c'est tous les êtres humains, bien sûr, en premier lieu, mais... et donc, l'idée d'une mise en perspective et de cette bonne annonce qui est donnée, parce que le souffle, comme tu dis, c'est un souffle qui donne la vie, et il donne la vie en disant, en nous faisant percuter que notre vie en ce monde n'est que temporaire, hein, et peut-être de voir que le temps qui passe sur nous jour après jour, dans un sens, c'est déjà c'est un jour de moins, Mais en même temps, c'est un jour de plus qui a pu être un temps de transformation de notre être, un temps de bénédiction, un temps de... Voilà, ça peut se voir en plus ou en moins. Et ben, je crois que c'est ça finalement qui est donné dans ce texte, c'est de voir en même temps cette horloge biologique, mais en même temps un temps qui est une chance de vivre cette transformation du monde, avec des vraies hauteurs finalement, à la place des fausses hauteurs. Et cette vraie hauteur, cette vraie élévation, c'est celle qui passe par cette parole de Dieu. Alors là, il y a marqué « Sion joyeuse messagère ». Il y a un jeu de mots qui marche qu'en hébreu, bien sûr. Hein, c'est que la chair, ça se dit « bassar », et que l'évangile, hein, la joyeuse annonce, hein, ils ont mis « joyeuse annonce », mais c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile en grec. Hein. Et ça, c'est « bessera », c'est le même mot, hein, c'est la même racine, « bsr », qui veut dire à la fois la chair et l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, il s'agit de remplacer l'espérance dans la chair, en l'espérance de en la bonne nouvelle, et c'est la même racine. Et bon, alors c'est ce que nous propose aussi le Christ. Hein, ma chair doit être mangée, la parole doit être entendue. C'est la même chose, si vous voulez, cette bonne nouvelle, hein, qui est entendue, cette chair qui est mangée. Il s'agit de vivre de cette nouvelle et de se laisser transformer par ça. C'est pour ça que ce texte est extraordinairement, à mon avis, proche de ce qui se vit effectivement en Christ. C'est cette veine-là, si vous voulez, ce qu'accomplit le Christ. Ça a pu décevoir, je comprends, une attente messianique dans un Cyrus, effectivement, un Messie... Qui rétablissent un pouvoir politique, une religion établie, etc. Et tout d'un coup, ça se transforme plus comme dans ce texte-là, hein, comme quelque chose à vivre vraiment spirituellement, existentiellement, par la foi, par l'écoute de cette... je ne sais pas si c'est une parole, c'est en même temps, c'est un peu facile de dire ça, parce que je ne crois pas que ce soit... Quand on dit parole de Dieu dans la Bible, c'est une parole créatrice, si vous voulez. C'est la parole, quand elle résonne, il y a des choses qui se créent, qui se transforment, qui se guérissent en nous. C'est une parole agissante. Donc, c'est pas une parole audible, c'est pas une parole qu'on peut transformer en mots, si vous voulez, un peu... donc voilà, c'est à vivre, hein, ce texte-là. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu, c'est à vivre comme cette venue de Dieu dans notre existence. C'est vraiment ça qu'on célèbre, je pense, pour Noël en Christ, cette venue de Dieu. Et ce Dieu qui est comme un berger, qui fait paître ses troupeaux, ça aussi c'est subversif, si vous voulez, parce que les bergers, ils n'étaient pas des bons pratiquants, ils ne pouvaient pas se laver les mains comme il faut, pratiquer le sabbat, c'est rigolé, pratiquer le sabbat, pas marcher plus de temps. Mais si les brebis doivent boire, il faut y aller à la source, et puis vaille pour les kilomètres, on les fait quand même, parce que, et oui, et se laver les mains, faire la prière à la bonne heure, et pas manger machin, mais bon, on fait ça si on peut. Le berger, il s'était réputé comme de mauvais, méprisé comme de mauvais religieux, bah oui, il faisait comme il pouvait. Et donc, quand il y a marqué ça, comparer Dieu à un berger, c'est insister plus sur la compassion de Dieu, sur l'idée de s'occuper de chacun en particulier, de rassembler, de nourrir, de porter. Et là aussi, il y a quelque chose qui est une image du Messie, si vous voulez, qui est extraordinairement, qui évoque pour nous vraiment Jésus, Jésus-Christ, si vous voulez, plus qu'un Messie triomphant, un nouveau David, dans un sens, hein, ou même un nouveau Moïse. C'est un Messie... un Messie berger ou un Dieu berger, c'est tout un programme en même temps théologique, mais aussi éthique, existentiel, dans l'accompagnement, dans la compassion. Ouais.
On va peut-être lire la fin du texte. Ce qui frappe, bien sûr, dans le chapitre 42 là, qu'on a lu, « Chanter pour le Seigneur un chant nouveau ». Vous avez ça dans un psaume, c'est j'avais vérifié.
90, 91, 92, oui, je ne sais plus très bien.
Oui, car il a fait des merveilles, etc. C'est toujours lié au Mirabilia Dei, c'est-à-dire aux merveilles que Dieu a faites, c'est-à-dire l'interprétation de l'histoire où ce qui est bon dans l'histoire n'est pas attribué à l'homme mais attribué à Dieu. C'est ça qui est beau, hein. Il ne s'agit pas de magie, bien sûr. Les merveilles de Dieu, ce n'est pas des miracles, c'est ce qui advient du monde de Dieu dans le monde des hommes. Donc chanter pour le Seigneur un chant nouveau, c'est cette idée de nouveauté, ça c'est quand même très biblique. L'idée que Dieu vient de la tradition, il vient bien sûr de l'héritage, mais pas seulement. Il vient aussi de ce qui est neuf, de ce qui est nouveau. Et qu'il faut tenir les deux en même temps. C'est-à-dire, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de la fidélité, le Dieu qui vient du passé, mais c'est aussi le Dieu qui invite à chanter un chant nouveau. Et je dirais que c'est l'enjeu pour nos églises, toujours, hein, de se recevoir du passé, mais pas uniquement. D'être aussi créatif, sans que cette créativité soit... sans qu'on confonde l'inspiration de l'Esprit-Saint et la pagaille de nos élucubrations personnelles. C'est toujours ça qui est difficile, bien sûr, de discerner la nouveauté de l'Esprit. Alors là, souvent, un des garants, c'est bien sûr la tradition au sens vivant du mot. Chanter pour le Seigneur un chant nouveau, hein, crier de joie, bien sûr, c'est quelque chose qui est très très biblique, ça. C'est un psaume qui est souvent repris dans la liturgie eucharistique. Chanter au Seigneur un chant nouveau, c'est d'ailleurs le psaume qu'on chante à Noël. C'est le psaume que l'on chante entre les deux lectures. Voilà, on va lire le dernier. Je rappelle que le prophète en hébreu, c'est Nabi. Hein. Nabi, c'est celui qui est à la fois appelé et c'est celui qui annonce. Voilà. Donc il est suscité par une parole et puis lui-même transmet cette parole. C'est une racine qui est du côté de l'annonce, de la proclamation.
Il y a une
école de peinture qui, au début du XXe siècle, qui s'appelle les nabis, c'est-à-dire les prophètes.
Alors, le cantique nouveau dans les psaumes, c'est, en tout cas dans notre numérotation hébraïque, hein, c'est 33, 40, 96, 98, 144 et 149.
C'est formidable.
Voilà, c'est quelque chose qui revient souvent.
La technique nouvelle au service de la tradition. Voilà. Qui veut bien lire pour finir?
Jacob, rappelle-toi ceci d'Israël. Tu es mon serviteur. Je t'ai façonné comme serviteur pour moi. Toi, Israël, tu ne me décevras pas. J'ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée tes fautes. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, poussez des exclamations, car le Seigneur agit. Retentissez, profondeur de la terre, montagnes explosées en acclamations, en même temps que la forêt et tous ses arbres, car le Seigneur a racheté Jacob, et en Israël, il a manifesté sa splendeur. Ainsi parle le Seigneur qui te rachète, le formé, et le Saint d'Abraham. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout. J'ai tendu les cieux. Moi tout seul, j'ai étalé la terre qui m'assistait. Je neutralise les signes des augures, les devins, je les fais divaguer, je renverse les sages en arrière et leur science, je la fais délirer. J'accomplis la parole de mon serviteur, je fais réussir le dessein de mes sages. Je dis pour Jérusalem qu'elle soit habitée, pour les villes de Juda, qu'elle soit rebâtie. Ce qui est dévasté, je le remettrai en valeur. Je dis à la mer, sois dévastée, tes courants, je vais les dessécher. Je dis de Cyrus, c'est mon berger. Tout ce qui me plaît, il le fera réussir en disant pour Jérusalem qu'elle soit rebâtie et pour son temple, soit à nouveau fondée.
Juste une petite précision historique, les Babyloniens ont vu aussi dans Cyrus qu'il est libéré de leur ennemi commun, les Mèdes, enfin tout ça c'est un peu compliqué, mais vous voyez, les histoires d'alliances géopolitiques, on le vit encore, et le Proche-Orient vit exactement la même chose aujourd'hui. C'était intéressant avec les États-Unis, avec Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Donc c'était la même chose dans l'échiquier de l'époque, et le clergé de Marduk, le dieu babylonien, a aussi fait des éloges, parce qu'on a trouvé un rouleau qui raconte les éloges de Cyrus, qui est vu aussi comme le grand sauveur. Et les Juifs font la même chose de Cyrus, mais pas de manière uniquement flagorneuse. C'est intéressant, il montre que finalement, Cyrus, qui est le grand roi, qui est l'homme fort hein, de l'époque, qui rétablit le culte, parce que la politique des Perses, c'était ça, c'est de permettre aux différentes ethnies, aux différents peuples, d'avoir leur propre culte, et de ne pas imposer le culte des Perses, ce qui était assez intéressant et assez nouveau. Mais simplement, les Juifs disent, voilà, Cyrus, c'est très bien, mais au fond, il est envoyé par Dieu, c'est-à-dire qu'il exécute les projets de Dieu, mais c'est quand même Dieu qui garde la main. Donc au fond, Cyrus... Mais pas, c'est pas juste une marionnette, mais c'est l'envoyé, c'est le pasteur, c'est une figure messianique. Mais attention, la source de son autorité n'est pas en lui-même, elle est en Dieu. Et c'est ça quand même la grande différence de la lecture biblique et juive de l'histoire.
Et en même temps, moi je trouve ça sympa qu'effectivement Cyrus soit ici le Messie, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, l'agent de ce salut du peuple, parce que si un Cyrus peut l'être, à ce moment-là, à la limite, tout le monde peut l'être. Vous voyez, c'est pas... Cyrus aurait pu dire, mais moi, je suis un vague assyrien, je n'ai rien à faire. Voilà. Non, ben non, c'est Cyrus qui va être le Messie et le Christ, ici. Christ avec un petit C, si vous voulez. Mais ça veut dire que nous pouvons être Christ avec un petit C aussi, c'est-à-dire avoir à notre place, à notre mesure... Même si nous sommes a priori, nous nous sentons étrangers à cette mission extraordinaire, eh bien d'avoir cette onction d'Esprit Saint qui nous met en charge d'accomplir le salut de Dieu pour des personnes, une personne peut-être seulement, par un geste. Sinon, je vois là que c'est intéressant, et c'est peut-être comme ça que fonctionnent, à mon avis, ces appels. Le paragraphe précédent, le passage précédent au chapitre 42, il commençait par chanter un chant nouveau. Là, au chapitre 44, ça commence, le passage que nous avons choisi, par « Rappelle-toi, Israël ». Et donc, s'il y a un chant nouveau, il y a un chant ancien. Et le chant ancien, on pense au cantique de la mère de Myriam, la sœur de Moïse, repris par Moïse. Ce chant de célébration de la libération que Dieu a donnée quand les Hébreux ont pu quitter l'Égypte, ont traversé la mer miraculeusement, ce qui évoque notre libération du péché. Donc c'est à nous de chanter un chant nouveau, c'est-à-dire la nouveauté du salut de Dieu, mais peut-être que c'est dans la mémoire de ce qu'il a accompli dans le passé que nous pouvons plus peut-être nous préparer là encore, puisqu'on parle de l'avant, de la préparation de ce temps de Noël, se préparer à la venue d'un salut qui va s'incarner dans notre existence, qui va s'incarner peut-être par notre existence, nos modestes actes de petit Christ là où nous sommes. Alors cette méditation, ça commence par un Dieu créateur finalement, qui nous forme, qui fait le monde, qui fait les montagnes, qui fait le... Hein. Et puis ensuite c'est un Dieu qui révèle, hein, qui renverse les signes des augures, des deux faux prophètes, des fausses sagesses. Et puis c'est un Dieu qui agit, voilà, qui décrète et ça se fait. Ça nous invite à une certaine confiance, hein, une certaine confiance dans ce qui vient de Dieu. Et cette idée, bon, en même temps qu'elle n'est pas naïve, hein, d'un monde où il y a des problèmes, où il y a des difficultés, mais où il y a la promesse d'un... c'est pas des lendemains qui chantent, comme on dit, c'est-à-dire une fausse espérance, c'est toujours demain, on rase gratis. Non, c'est voir déjà les signes dans notre temps présent de la venue d'une nouveauté de vie, de fidélité, de joie aussi. Et il y a cette image incroyable, hein, dans le chapitre 42 qu'on a vu, le paragraphe du milieu, là, comme une femme en travail, je gémis, je suffoque, c'est Dieu qui parle en fait. qui est comparée à une mère en train d'accoucher. Et donc cette figure très féminine de Dieu, hein, comme une mère qui accouche d'une nouvelle humanité, d'un nouveau nous aussi, un nouveau nous-mêmes, comme un bébé, et d'une mère qui va chérir son enfant, son nouveau-né, cette figure très maternelle de Dieu, ça aussi, c'est très, très, très étonnant, très... C'est pas si rare que ça dans la Bible, c'est un peu oublié peut-être, mais je trouve que c'est beau pour dire le Dieu qui se manifeste en Christ, en fait, surtout pour Noël peut-être, de cette femme, ce Dieu qui est une femme en couche, voilà, qui donne naissance à la vie. Ouais.
Et c'est de Noël que nous parlerons la prochaine fois. Puisque nous passerons au Nouveau Testament avec le texte du Cantique de Marie, le Magnificat. Donc la séance sera le 11 décembre à l'oratoire. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, c'est dans Luc. Et voilà, nous pourrons méditer sur le mystère de l'incarnation et la joie de Noël. Voilà, bonne soirée.
Merci.
Merci Marc.
Merci Jérôme.